Voilà. Bon. OK. Donc je vais attaquer la... Voilà. Je vais attaquer donc la, cette deuxième partie. Hein. Et donc là, ici, voilà. Alors, plan de l'exposé, voilà, ce que je vais, dont je vais parler, dont je vais présenter le transistor à effet de champ, parce que la dernière fois, j'avais présenté transistor bipolaire, l'historique, surtout à gris polysilicium. Et je vais parler après des circuiteries NMOS et CMOS et la technologie des MOS complémentaires parce que sans technologie on ne comprend pas très bien. Puis après je vais passer au circuit intégré et je vais vous montrer que c'est une croissance très, très intéressante et dont on ne voit pas très bien le bout. Alors, commencer le transistor MOS. En fait, transistor MOS a eu une longue histoire. Il a été découvert, si j'ose m'exprimer ainsi, dans les années 30. En particulier, on parle toujours du brevet de Lilienfeld, qui était un transistor dont on voit le schéma, le dessin, qui ressemble un peu à ce qu'on fait maintenant, mais avec de l'oxyde de cuivre, ou du copper sulfide. Donc c'était plutôt un mélange de cuivre et de sulfite, sulfate de cuivre ou quelque chose comme ça. Et donc ça a été vu comme une triode à l'état solide, c'est-à-dire qu'en fait les gens cherchaient, compte tenu des inconvénients dont on a parlé à propos des tubes, cherchaient à faire des éléments à état solide, d'abord pour avoir une meilleure fiabilité et... plus petite dimension, certainement. Alors, ce machin n'a jamais pu fonctionner. Le brevet a été posé, mais il n'y a jamais eu de réalisation. Et il a fallu attendre 1959, un certain Atala, John, c'est pas son prénom, c'est son surnom. John, il s'appelait Atala, et puis un autre, qui ont proposé de travailler donc sur le silicium et de faire l'isolant. On verra qu'il y a nécessairement un isolant qui doit être très fin et avoir des propriétés tout à fait particulières et que la meilleure façon de le faire, eh ben, c'était tout simplement d'oxyder le silicium pour faire de la silice, c'est-à-dire du verre. Hein. Et donc ça, ça a été l'élément qui a permis de faire des transistors MOS. Hein. Et donc je reviens à la diapo d'avant. Ça, vous voyez, c'était donc le premier MOS d'Atala qui a été fait, ou c'est dit comme tel. Hein. On voit bien les trois pattes. Et puis, donc les trois pattes et la patte qui relie le substrat. Alors, je ne sais pas si c'est le MOS d'Atala, puisque moi j'ai cherché image MOS Atala et j'ai rien trouvé, ou MOSFET Atala. J'ai l'impression que c'est pas le bon, c'est pas un truc, ils ont ouvert un MOS qui était beaucoup plus tard, un MOSFET beaucoup plus récent. Voilà. Alors, après, autre nouvelle, il y a eu deux autres découvertes. Il y a eu en 68, le fait d'utiliser le silicium polycristallin pour faire la grille des transistors. Et ça, ça a encore ouvert quelque chose d'important. Maintenant, tous les transistors MOSFET hein, ont des grilles en silicium polycristallin. Et ceci a vraiment permis le démarrage. Pourquoi ? Parce que ça provoque un effet. Pourquoi vous filmez ? Vous allez le mettre sur Internet après ?
Non, c'est pas pour mettre sur Internet.
Non ?
C'est comme ça.
Donc, comme ça.
Oui.
C'est après-ci-guerre.
Non,
bon, ok. Donc, Vous le trouverez sur Internet du musée, donc déjà tout fait. Hein. Pas la peine de venir pirater ce genre de choses. Ok. Merci. Donc, voilà. Non, mais on va le mettre sur Internet. On va le mettre, ce genre de truc. Bon. On trouve aussi des films qui sont copiés de cette manière. Voilà. Alors, donc la grille en scissium polycristallin, appelée vulgairement poly, est faite, est quelque chose de très courant actuel. Et puis voilà, en 63, donc là j'ai pas tout à fait respecté la chronologie, on a proposé de faire des transistors complémentaires. C'est-à-dire, on a l'avantage, comme il y avait pour les bipolaires, où on pouvait faire des PNP et des NPN, et là, on va faire des MOS de type P et des MOS de type N, et qui sont complémentaires, et on va les utiliser pour faire une circuiterie tout à fait particulière qu'on appelle CMOS, et qui est largement utilisée maintenant, et qui permet, entre autres, la faible consommation. Alors, on va présenter justement comment fonctionne un MOS. Donc, la capacité MOS. Alors, qu'est-ce qu'une capacité MOS ? C'est une capacité... Non, prenez l'autre porte, s'il vous plaît. C'est une capacité, donc, qui a un isolant, avec une armature métallique, et l'autre armature est constituée par un semi-conducteur dopé. Et là, on part d'un semi-conducteur dopé N. Donc, je vous rappelle que dans un semi-conducteur de PN, il y a des électrons qui se baladent et il y a des atomes oxydés, des atomes ionisés qui sont fixes, donc des charges plus fixes et des charges négatives mobiles qui sont constituées par les électrons. Voilà. Et on va maintenant essayer de faire marcher ça. Donc pour le faire marcher, on va le polariser. Alors, si je le polarise de cette manière, et c'est intentionnel, vous voyez, négatif de ce côté-là, positif de l'autre. Ça va créer un champ électrostatique, du plus vers le moins, hein, entre cette armature et l'autre armature qui est constituée par du silicium monocristallin dopé N. Hein. Et il va se passer immédiatement des choses. La première chose, c'est que les électrons remontent le champ, donc sont attirés par le plus, remontent le champ, et vont donc fuir cette zone. Ceux-là, ils ne peuvent pas bouger, mais ceux-là, ils sont repoussés. Et ils sont repoussés, et donc on commence à voir ici apparaître une zone vide de charge, donc dite déplétée. Mais comme on n'est pas au zéro absolu, il se produit en permanence des dissociations, c'est-à-dire qu'un atome fixe va perdre un électron et va donc devenir lui-même positif et va y avoir donc une charge positive et une charge négative qui est l'électron qui sont libérés. Normalement, ils se recombinent juste après. Mais comme il y a un champ électrique, l'électron il est attiré par ce paquet d'électrons et le plus, il est au contraire, il va dans le sens du champ. Donc ces choses qui se sont dissociées ne se recombinent pas immédiatement, mais restent séparées. Et ça va, ces charges plus vont s'accumuler ici, hein, charges plus qui sont des absences d'électrons, eh bien vont s'accumuler là et vont constituer un du silicium de type P, donc dans lequel les charges mobiles sont des trous et les charges fixes sont des atomes qui ont un électron supplémentaire. Donc on a inversé localement l'effet total d'avoir mis ce potentiel, fait qu'on a inversé le type du silicium au ras sur l'autre côté de la capamos. On appelle ça une capamos. Donc, c'est une inversion qui est d'autant plus forte que le potentiel est plus fort et qui ne démarre pas immédiatement. Si je mets un potentiel dans ce sens, ça ne se produira pas immédiatement. Il faut attendre d'avoir un potentiel suffisant. Alors, il y a un effet de seuil, c'est-à-dire que l'inversion se produit que quand on a une tension suffisante. Ici, c'est ce qu'on appellera le seuil. Bon, c'est le principe très simplifié de la capacité MOS. Alors maintenant, comment on fait un transistor MOS? Eh bien voilà, on va fabriquer une cape à MOS. C'est-à-dire qu'on fait une électrode, qu'on appelle la grille, en silicium polycristallin, donc vulgairement poly. L'isolant, c'est du SiO2, une fine couche d'SiO2. Et on va avoir ici le substrat. Et quand on charge la grille, dans ce cas-là, c'est un substrat P, donc un substrat dans lequel les charges mobiles sont des trous, sont plus. Hein. Et donc, quand on va charger la grille en positif, ce qui est l'effet inverse de l'exemple que j'ai donné avant, eh bien, on va créer ici une inversion qui est avec du canal N, du silicium N, c'est-à-dire dans lequel il y a des électrons libres. Et comme on a fabriqué deux zones diffusées avec du N, eh bien on s'aperçoit que quand on met un potentiel ici, on crée une fine couche de N qui va relier cette zone N et cette zone N. Et c'est cette fine couche qui va conduire le courant entre une électrode qu'on appellera arbitrairement source et l'autre qu'on appellera drain. Hein. Et plus la couche de conduction est épaisse, plus la conduction est forte. Évidemment, quand le potentiel est trop fort, il n'y a pas cette couche inversée et le MOS ne conduit pas. Donc on module une couche de conduction par son épaisseur et même son existence. Hein. Donc ça, c'est le MOS qu'on appellera MOS N, parce qu'on donne le nom du MOS au type du canal que l'on peut créer. Hein. Et il existe également le système complètement dual, dans lequel on part d'un substrat N, on fait des zones P pour faire la source et le drain, et au contraire, on mettra un potentiel négatif sur la grille, ce qui va créer ici, sur cette armature, une couche de type P qui reliera la source au drain. Et donc, ce transistor-là, qu'on appellera un MOS P, va fonctionner exactement à l'envers. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, pour ceux qui ont dans leur culture les shaddocks, hein, eh bien, quand les shaddocks, il existait deux types de shaddocks, il y avait les shaddocks surtout quand ils pompaient, hein, il y avait les shaddocks qui avaient les pieds en bas et les shaddocks qui avaient les pieds en haut. Et quand ils pompaient, eh bien, vous voyez, quand le shaddock du bas poussait sur le levier de la pompe, le shaddock du haut le levait puisqu'il était à l'envers. Hein, okay ? Eh bien, ça fonctionne exactement de la même manière. Hein. C'est-à-dire, pour le même potentiel, même commande et ainsi de suite, on s'aperçoit qu'il y en a un qui a les pieds en haut et l'autre qui a les pieds en bas. Hein. Et c'est cette combinaison des deux qui va constituer ce qu'on appelle le CMOS. Voilà. Et donc, on s'aperçoit également que les électrodes de commande... Alors, c'est un peu une autre image que je peux donner. Bonjour. Une autre image que je peux donner, c'est si vous avez un tube avec de l'eau qui passe et que vous mettez votre pied dessus, eh bien, vous allez arrêter l'eau. Hein. Alors, si maintenant vous arrêtez avec un petit levier, avec un gros poids, eh bien, le gros poids va appuyer, par exemple, sur une planchette pour arrêter l'eau. Puis vous, si vous appuyez de l'autre côté sur l'autre bout de la planchette, vous allez libérer plus ou moins d'eau. Et vous voyez qu'il faut que vous appuyiez un certain... pour commencer à ouvrir le tuyau. Eh bien, c'est un peu ce système-là. D'accord ? Donc, quand on active, on libère le passage. Mais c'est exactement de la même idée que d'écraser un tuyau. Et vous voyez que plus le tuyau sera gros et aplati, donc large, hein, vous allez faire passer plus d'eau pour la même pression. Hein. Et puis si maintenant le tuyau est écrasé sur une grande longueur, eh bien, il passera moins d'eau à cause de la longueur écrasée. Donc, on retrouve exactement ces mêmes caractéristiques dans les MOS. Donc, vous voyez que le fonctionnement est complètement différent du transistor bipolaire. Hein. OK ? Il n'y a pas l'effet transistor du transistor bipolaire, il y a un effet tuyau plus ou moins écrasé, qu'on appelle le canal. Alors, on va regarder les caractéristiques. Hein. Alors, donc, ce MOS, par rapport à ce qu'on avait vu à l'époque des tubes, des relais et autre chose, c'est devenu le composant idéal, hein, qui marche très bien pour faire ce qu'on veut, et il est relativement facile à fabriquer, et on va en faire des millions et des millions, voire des milliards maintenant, sur une puce qui est plus petite que l'ombre du pouce. Donc ça, c'est quelque chose, on peut dire que le composant est pratiquement résolu, si ce n'est que, on va voir que la longueur caractéristique qui nous intéresse, c'est la longueur du canal, c'est-à-dire l'espace entre la source et le drain. Hein? La capacité, pourquoi on appelle ça la longueur? Parce que vous voyez bien que c'est dans le trajet du courant électrique entre la source et le drain, c'est la longueur à parcourir par les porteurs. Et donc, cette dimension-là, qui est la dimension caractéristique, pour vous donner une idée, on en est maintenant à 22 nanomètres. Un nanomètre, c'est quand même déjà relativement petit. Hein. On est à 10⁻⁹. Hein. Hein. On est dans... Oui, on est 22 nanomètres, ça fait 220 angstroms, c'est-à-dire 220 atomes. Un angstrom, c'est à peu près un atome. Donc 220 atomes, et on envisage bientôt d'arriver à 10 nanomètres. Hein, et ces 10 nanomètres, ça ne va pas s'arrêter là. Vous allez voir, je vais vous montrer des courbes, il n'y a aucun fléchissement. Hein. On pense arriver jusqu'au nanomètre. On aura 10 atomes. Hein. Je ne pense pas qu'à un moment, on ne va pas pouvoir avoir un atome sur lequel on appuie. Il y a quelque chose là. Hein. Il va se passer quelque chose, nécessairement. Avant, il y a eu... Alors, on verra dans l'histoire. L'histoire des MOS est une histoire contre les experts. C'est-à-dire qu'en fait, les experts, depuis des années et des années et des années, moi j'ai toujours connu les experts qui disent « ça va s'arrêter bientôt, on ne pourra pas aller plus loin ». Et boum, ça a continué sans fléchissement. Hein. Et maintenant, les experts sont soit morts, soit on ne peut débrider. Et jusqu'à maintenant, la loi de Moore, c'était la loi du double décimètre. Vous savez qu'une exponentielle, quand on le dessine sur une feuille en smilog, c'est une droite. Hein. Donc la prédiction du futur, je prends mon double décimètre et je regarde où ça va. Et on ne s'est jamais trompé là-dessus. Hein. Et ça, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Ainsi, un processus exponentiel qui dure depuis une quarantaine d'années. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Un processus exponentiel depuis 40 ans et qui va bien encore en prendre 10. Donc ça va faire 50 ans de processus exponentiel. On est parti de quelques milliers de transistors et on va arriver à des milliards. On est déjà à quelques milliards et on va arriver à des dizaines, voire des centaines de milliards. Et si je parle de vitesse, c'est fantastique. Les premiers transistors MOS, ils tournaient à des vitesses de quelques mégahertz, mais encore. Hein. Et maintenant, on a franchi joyeusement le giga. Hein. On approche les 100 gigas, et moi je dis qu'on va rentrer dans les terahertz. Qu'on va avoir et qu'est-ce qu'il y a terahertz? Il y a les infrarouges. C'est-à-dire qu'on va... Déjà, pour vous donner une idée, quand au début des années 90, hein, j'étais chez Bull à l'époque, et je disais, on finira la décennie avec 1 milliard d'instructions exécutées par seconde. On me dit, tu es fou, tu n'arriveras jamais, on n'arrivera jamais à faire ça. Hein, les architectes de Bull me disaient ça. Hein. Et on arrive non seulement on est passé 1 giga instruction par seconde, mais c'était plutôt un 5. Hein. Donc on a passé l'an 2000 à plus d'un giga instruction par seconde. Et on rentre, on va avoir des fréquences d'horloge qui vont être des ondes radar. Et l'onde radar, ça commence à 3 gigas jusqu'à 10. Vous allez me dire que c'est arrêté maintenant. On verra pourquoi c'est arrêté. C'est pas du tout pour des raisons techniques. L'autre porte. Voilà, donc c'est une évolution exponentielle. Hein. C'est assez extraordinaire, si vous voulez, ce qu'on arrive à faire. Bonjour. Ce qu'on arrive à faire sur des puces. Voilà l'évolution de la courbe, hein, telle qu'on peut le tracer. Hein, et vous voyez les points qui sont ici sont relevés, ils s'alignent parfaitement. Voyez. Alors, est-ce qu'ils s'alignent parce qu'on a prévu qu'ils devaient s'aligner, on fait en sorte qu'ils s'alignent, mais on y arrive. Hein. Il faut voir que cette évolution-là est une évolution anti-scientifique au possible. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu que des scientifiques découvrent des choses. On a dit on doit avoir telle caractéristique à tel moment. Débrouillez-vous. Alors, plusieurs laboratoires étaient en parallèle. Hein. Ceux qui n'y arrivaient pas, éjectés de la course. Puis ceux qui y arrivaient, eh ben, ils gagnaient. Et il y en avait toujours qui gagnaient. Hein. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire, le but était fixé à l'avance. C'est la fameuse management par la loi de Moore. Et ce but fixé à l'avance a été tenu. La seule différence, c'est qu'ils donnaient deux buts, les Américains. Un but pessimiste pour le reste du monde et un but